Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 juin. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité ce matin, 70 ans de règne, l'Angleterre célèbre la longévité exceptionnelle de sa reine. Coup d'envoi des 4 jours du jubilé de platine, nous serons à Londres dans un instant et on en parlera évidemment avec vos invités Léa à 7h50.
Mais oui Nicolas, parce que quoi qu'on dise, ils nous fascinent quand même beaucoup ces Britanniques. Comment comprendre l'excitation générale en ce jour de jubilé? On en parle avec la journaliste française Isabelle River et Sir Michael Edwards, poète, critique littéraire britannique, anobli par la reine, seul anglais de l'Académie française. Il est génial.
Et il sera donc à votre micro tout à l'heure. Les autres titres, Anaïs.
De ce côté-ci de la Manche, jour J pour les lycéens. Premier résultat ce soir de Parcoursup. Les éleveurs de brebis inquiets du réchauffement dans les Pyrénées. Et le Danemark de retour à la télé. Les quatrièmes saisons de Borgen.
J'ai hâte de la voir. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le politologue Brice Teinturier, le sociologue Jean Viard. On va parler de cette drôle d'atmosphère politique en France à une dizaine de jours des élections législatives. Vos questions, amis auditeurs, 01 45 24 7000.
France Inter. Qu'on adore ou qu'on s'en agace, il faut reconnaître le caractère exceptionnel de l'hommage que le Royaume-Uni rend à partir d'aujourd'hui à sa reine. Déjà parce que 4 jours fériés y sont entièrement consacrés. Ensuite parce que les 70 ans de règne sont une curiosité de l'histoire, un record qu'on n'est sans doute pas prêt de revoir. Elisabeth II montée sur le trône d'Angleterre à 25 ans, 70 ans plus tard, une cote de popularité à faire pâlir n'importe quel dirigeant, près de 92% d'opinions favorables.
Elle est toujours la même.
Elle est une femme remarquable.
Elle est presque parfaite.
Et toujours avec le sourire. Je ne suis pas très royaliste, mais je l'estime beaucoup. Elle avait dit, quoi qu'il arrive, qu'elle serait toujours au service du peuple. Elle a tenu promesse.
Parole d'anglais recueillie dans le Cotentin. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Alors des millions de personnes devraient prendre part aux festivités. Certains campent à Londres depuis lundi déjà.
Oui, le long du Mall, l'avenue où vont défiler les militaires jusqu'à Buckingham, les plus déterminés se réveillent en ce moment sous le soleil, après une nuit sous la tente ou carrément à la Belle Étoile. Ils veulent à tout prix être aux premières loges pour ce moment historique. Et puis, il suffit de regarder les façades dans le pays. Le drapeau britannique est partout ce matin, avec des portraits de la reine accrochés au balcon des particuliers, dans les vitrines des magasins et évidemment à la une des journaux. 70 ans de règne, elle a 96 ans, il n'y aura pas d'autre jubilé et c'est le personnage le public le plus apprécié dans le pays. C'est aussi l'occasion de lui dire adieu de son vivant. Elle a publié un message hier soir où elle exhorte ses sujets à se tourner vers l'avenir avec confiance et enthousiasme. Cette reine inamovible qui ne donne jamais son avis sur rien, qui fait des déclarations au compte-gouttes. Dans cette époque si chahutée, ce Royaume-Uni bousculé par la pandémie, le coup de la vie, le Brexit, elle est la grand-mère de la nation et elle rassure ses sujets.
Oui, Richard, vous le disiez, elle a 96 ans. L'âge de la reine pourrait en fait troubler cette fête.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est à la toute fin du défilé que la famille royale doit venir saluer la foule. Et au milieu des 18 personnes présentes en tenue d'apparat, il doit y avoir la reine. Mais chaque sortie d'Elisabeth II est susceptible d'être annulée au dernier moment. Désormais, elle a 96 ans, sa santé est fragile. Mais ne pas la voir tout à l'heure serait évidemment une déception pour tous ceux qui la guetteront et aussi une immense inquiétude. Depuis la mi-octobre et une brève hospitalisation, elle a annulé la plupart de ses engagements publics. En particulier, le discours de la reine devant le parlementaire, moment très solennel, qu'elle n'avait raté que 2 fois pendant tout son règne parce qu'elle était enceinte. Elle se déplace désormais avec difficulté, avec une canne ou récemment dans un grand salon de jardinage dans une voiturette. Aujourd'hui, il faudra qu'elle trouve la force de s'avancer sur ce balcon et d'agiter la main. Les millions de Britanniques qui vont suivre ce défilé seraient ravis.
Richard Place depuis Londres, journée teintée british aujourd'hui sur Inter. Tout à l'heure à 7h50, l'invité, puis grand bien vous fasse. Et Fabienne Sintès sera ce soir à partir de 18h en direct de Londres.
Queen Fabienne, il est 7h04 en France après la santé, l'école au cœur du déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
Voilà aujourd'hui Marseille avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Marseille et ses 59 écoles choisies pour expérimenter ce que le président appelle l'école du futur. Expérimentation contestée par les syndicats d'enseignants qui n'y voit au mieux qu'une vitrine, au pire une école à deux vitesses, alors qu'il faudrait d'urgence revoir les salaires. Emmanuel Macron et Pape Ndiaye attendus dans la cité phocéenne vers 11h à l'école Menpenti. Alors que les élèves de terminale, eux, ont une autre pendule en tête. 19h aujourd'hui, fin du suspense et première proposition d'admission dans Parcoursup. 11 millions de vœux ont été formulés pour des cursus étudiants, entre 12 et 13 choix demandés en moyenne, Sonia Princé.
La licence et le BTS sont les formations les plus demandées. 69% des candidats ont formulé au moins un vœu en licence, 47% en BTS. Vient ensuite pour un tiers des candidats le nouveau BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, qui remplace le DUT et s'obtient en 3 ans. Puis la licence d'accès santé, les classes préparatoires et les instituts de formation en soins infirmiers. La nouveauté, c'est que de plus en plus de lycéens choisissent leur domaine d'études en fonction de leurs enseignements de spécialité suivis en première et en terminale. Exemple avec Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur.
À peu près 58% des lycéens de terminale qui ont fait des choix en mathématiques et physique-chimie ont confirmé des vœux dans des classes préparatoires et à 40% dans des écoles d'ingénieurs. On constate aussi que ceux qui ont choisi la spécialité sciences et vie de la Terre, en majorité, ils choisissent des formations en santé. Notamment lorsqu'ils font, par exemple, sciences et vie de la Terre et physique-chimie, sont 70% d'entre eux à avoir fait des vœux dans les licences avec option santé et 25% d'entre eux dans des formations en soins infirmiers. Donc, on voit une cohérence.
Alors, est-ce que cela signifie que les erreurs d'orientation seront moins fréquentes à l'avenir ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Cette année, le nombre d'étudiants en réorientation inscrits sur Parcoursup a augmenté par rapport à 2021.
Et au total, plus de 930 000 candidats attendent une réponse ce soir. Tout ce qu'il faut savoir sur Parcoursup, c'est dès maintenant sur franceinter.fr. D'autres chiffres au cœur de l'actualité, ceux du ministre de l'Intérieur, auditionné hier par le Sénat après les incidents du match Liverpool-Real. Gérald Darmanin a reconnu que les choses auraient pu être mieux organisées. Des excuses sincères aussi envers les supporters de Liverpool gazés par les lacrymogènes. En revanche, il réaffirme, je cite, que 110 000 personnes se sont présentées autour du Stade de France, 35 000 supporters en trop. Il cite d'ailleurs les chiffres de la SNCF ou de la RATP, mais Géraldine Allot, les deux entreprises contredisent cette version.
Lors de son audition, Gérald Darmanin a montré un tableau sur lequel on pouvait lire les flux de passagers vers le Stade de France samedi soir. Le stade est desservi par une ligne de métro et deux de RER. Ligne 13 du métro, 27 000 passagers, dit le ministre. La RATP nous a répété hier soir qu'elle avait transporté 26 000 personnes. RER D, 37 000, la SNCF confirme. RER B, 6 500. C'est 6 002, corrige la SNCF, qui opère la partie nord de cette ligne. Ensuite, il y a le chiffre qui sort de nulle part. 10 500 passagers auraient été transportés sur la partie de la ligne B du RER exploitée par la RATP. Le problème, répond la régie, c'est qu'elle exploite la portion du RER B située au sud de la gare du Nord, donc loin du Stade de France. Hier soir, certains observateurs disaient qu'à force de grappiller un millier par-ci et 10 000 par-là, le ministre en arrive à ce chiffre de 35 000 supporters fantôme.
Géraldine Allot, cellule investigation de Radio France. Les auditions au Sénat vont se poursuivre. Les parlementaires souhaitent entendre le préfet de police et le délégué interministériel aux grands événements. Le Quai d'Orsay confronté aujourd'hui à un mouvement rarissime. Les diplomates en grève, du jamais vu depuis 20 ans. Réforme de la haute fonction publique, baisse continue des moyens, autant de griefs. Des ambassadeurs soutiennent même le mouvement porté par 6 syndicats précisions dans une demi-heure.
Il est 7h08 au 99e jour de la grève en Ukraine. Les importants en perte de soldats ukrainiens.
Au moins 60 à 100 soldats tués par jour, dit le président ukrainien. La ville de Severodonetsk proche de tomber et l'enjeu des céréales stockées dans le port d'Odessa à cause du blocus russe. 20 millions de tonnes au moins. Les Européens proposent des corridors gérés par l'ONU. La Russie en parlera la semaine prochaine en Turquie, ce qui fait refluer ces derniers jours les cours du blé et du maïs. Plus de 2000 foyers détectés en Amazonie en mai, ce qui en fait le deuxième mois de mai le plus dévastateur de l'histoire pour la forêt, des incendies pour la plupart criminels, tendance lourde de déforestation depuis la prise de pouvoir de Jair Bolsonaro en 2019. Retour en France avec cette activité ancestrale qui attire chaque année des dizaines de milliers de curieux dans les Pyrénées. Ce week-end débute la transhumance vers les pâturages bien verdoyants des hauteurs. Mais pour combien de temps encore ? Les éleveurs que vous avez rencontrés, Hugo Charpentier, sont inquiets des conséquences du réchauffement climatique en montagne.
Dans cet élevage, 1200 brebis et une vue imprenable sur les Pyrénées. Mais avant de monter tout ce beau monde là-haut, il faut d'abord préparer le troupeau.
Aujourd'hui, on doit poser 80 cloches.
Théo Roussillon, salarié agricole.
Là, j'ai attrapé la brebis, je la tiens. Et là, je lui mets le collier. J'essaie de faire en sorte que ça lui serve pas trop. Parce que là, la brebis, elle a pas trop de laine. Et quand elle va monter en estive, au fur et à mesure, la laine, elle va pousser.
Le grand départ est prévu dans les tout prochains jours, selon Paul Delatour. Il dirige cette exploitation.
Ce sont des camions qui viennent chercher donc les bêtes, qui les amènent au pied de la montagne. Ensuite, on a une petite journée de marche pour arriver sur les hauts sommets pyrénéens.
Son père faisait la même chose avant lui, la transhumance, une tradition, rien ne change, enfin presque.
Ce qu'on voit, c'est que on les monte plus tôt. Avant, on montait fin juin, là, on monte début juin, parce que la neige fond plus vite, et il y a des problèmes d'eau plus tôt dans la saison. C'est vrai qu'à partir du 1er août, des fois, on peut avoir des soucis avec des ruisseaux qui sont à sec, qu'on n'avait pas les années précédentes. Quoi.
La perspective d'un été qui sera chaud et sec inquiète cet éleveur.
Oui, c'est un souci, parce que on n'a malheureusement aucune prise. On est anxieux par rapport à ça, mais ça, c'est... j'ai pas besoin être paysan pour être anxieux, c'est en tant que citoyen.
Afin de s'adapter à cette nouvelle donne climatique, certains éleveurs envisagent de réduire la taille de leurs troupeaux et donc réduire leur activité.
Reportage d'Hugo Charpentier. Des armes lourdes, des mitraillettes, des fusils d'assaut saisis en Alsace. Quatre hommes âgés de 40 à 60 ans sont en garde à vue à la gendarmerie de Strasbourg. Ils reconnaissent leur appartenance à la sphère néo-nazie. À Roland-Garros, IGAS Swiatek toujours aussi solide. La numéro 1 mondiale a enchaîné une 33e victoire, ultra favorite pour ses demi-finales. Chez les hommes, le duel scandinave a tourné à l'avantage du Norvégien Casper Ruud. Marin Cilic vient compléter le tableau de ses demi. Et puis entre politique et sport, les footballeurs ukrainiens encore dans la course pour la Coupe du Monde au Qatar. Victoire 3-1 en Écosse hier en demi-finale des barrages. Match couperé dimanche à Cardiff. Ça aussi c'est de la géopolitique mais sur petit écran, la série Borgen revient 10 ans après la 3e saison, toujours produite par la télé danoise, toujours aussi haletante, Alexandra Akoun, mais nettement plus sombre.
Le créateur de la série, Adam Price, nous avait passionnés pendant 3 saisons avec son personnage de femme Premier ministre, constamment tiraillé entre ses valeurs et l'exercice du pouvoir, ses ambitions politiques et sa vie de famille. 10 ans plus tard, il s'attaque à la face sombre de Birgit Nyborg, désormais ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de coalition dirigé par une femme à qui elle a servi de modèle. Elle peine à exister dans le jeu politique. La découverte de pétrole au Groenland va changer la donne.
Pourquoi c'est elle qui fait une déclaration ?
Officiellement, le Groenland est sous la houlette de la Première ministre.
L'Arctique relève de notre ministère.
Et faire perdre pied à la défenseuse de l'environnement qu'elle était.
Nous devons prendre en compte le fait que nous vivons dans un monde qui sera dépendant du pétrole pendant encore 30 ou 40 ans.
Mais qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle retourne sa veste en direct à la télé.
Sur fond de crise internationale et de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine autour de l'or noir, Adam Price questionne l'ivresse du pouvoir. Jusqu'où peut-on aller pour le conserver dans le reniement de soi, le sacrifice des autres ?
Tu t'es servi de moi. Je te reconnais pas.
C'est cynique à souhait, et pas seulement à l'égard des politiques, haletant comme un polar, avec une Sitze Babette Knudsen qui clairement s'amuse de ce changement de ton de la série. La fin de l'épisode 4, où Birgit va au bout de sa mue de prédateur, est magistrale.
Et 8 nouveaux épisodes sur Netflix, ça s'appelle Borgen, le pouvoir et la gloire.
Et les 3 premières saisons étaient absolument formidables, j'ai hâte de voir la dernière. Merci Anaïs Feugat, le zoom dans 3 minutes, quand les microscopes font faire des bons à la lutte contre le